Chapitre 19. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Éphésiens 4, versets 11-13. Quand le Sauveur a placé les dons de son Esprit dans l'Église pour accomplir, comme il a voulu, l'œuvre du Seigneur jusqu'au milieu du jour, il n'a pas laissé son peuple deviner si une manifestation venait du ciel ou de mauvais esprit, mais il donna des règles par lesquelles nous pouvons savoir si l'Esprit est de Dieu ou pas. Même en ces derniers jours, quand, comme cela fut prédit par le prophète Joël, le Seigneur doit déverser son Esprit sur toute chair, et les fils et les filles doivent prophétiser, Joël 2, versets 28 à 29, Paul dit que l'on ne doit pas mépriser les prophéties, mais on doit prouver toutes choses et retenir ce qui est bon. 1 Thessaloniciens 5, versets 20 à 21. Comment de telles manifestations peuvent-elles être testées si ce n'est en les testant avec les règles que l'Écriture donne pour discerner l'action de l'Esprit de Dieu ? Tout ce qui est au-delà de la compréhension d'esprit fini n'est pas nécessairement de Dieu, car la Bible déclare que dans les derniers jours, Satan fera des miracles pour tromper le monde et qu'il peut le rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Apocalypse 16, verset 14. C'est donc en testant minutieusement la manifestation avec les règles de la Bible qu'un vrai don spirituel peut être reconnu. Il faut prendre autant de soin à faire cela que les hommes du monde prennent pour détecter de la fausse monnaie. La détection de la fausse monnaie. Dans le Bank Note Reporter de Détroit d'avril 1863, M. Preston donna 5 règles pour détecter les contrefaçons et déclara que toute personne qui ferait une inspection rigoureuse, selon ses règles, de chaque billet en sa possession n'a pas besoin d'avoir peur d'être trompé. Il n'y a pas de moyen plus sûr pour prouver un don prophétique qu'en le comparant avec la description de ces dons tels qu'ils se manifestèrent au temps biblique et de le tester par les règles données. Les Écritures nous rendent accomplis et propres à toute bonne œuvre. 2 Timothée 3, versets 16-17, et rapportent correctement les manifestations du don de prophétie et comment le vrai travail de l'Esprit de Dieu peut être différencié de l'œuvre de Satan avec ses faux dons. Règles pour discerner les véritables dons. Le Seigneur a donné dans sa parole au moins 7 règles distinctes par lesquelles les manifestations authentiques de l'Esprit de Dieu peuvent être différenciées du travail de Satan. La règle numéro 1. Instruction spéciale. Le prophète Ésaïe, en parlant des choses existant dans les derniers jours, dit « Enveloppe cet oracle, scelle cette révélation parmi mes disciples. J'espère en l'Éternel, qui cache sa face à la maison de Jacob. » Je place en lui ma confiance. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Ésaïe 8, versets 16 à 20. Dans ce passage biblique, l'attention est attirée sur un peuple travaillant à la restauration du sceau de la loi de Dieu, un peuple à l'écoute du Seigneur, engagé à son service. Ils l'attendent, c'est-à-dire, ils attendent sa venue, et cela, à une époque où des esprits prétendant être les esprits des morts demandent aux gens de les rechercher. Certains obéissent à cet appel et cherchent la connaissance chez les morts, mais le Seigneur invite son peuple à le chercher. Cela revient à dire que s'ils le cherchent, il va leur donner une instruction spéciale. Ils n'ont pas besoin de rechercher les morts, qui ne peuvent pas leur donner d'informations, car ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil, et les morts ne savent rien. Ecclésiaste 9, versets 6-5. L'écriture ci-dessus donne une règle par laquelle toutes les communications doivent être testées. S'ils ne parlent pas selon cette parole, c'est parce qu'il n'y a aucune lumière en eux. Toutes les communications du Seigneur se feront en harmonie avec sa parole et sa loi. En appliquant cette règle aux écrits de Madame White, je dirais qu'au cours des 52 dernières années, j'ai lu attentivement ses témoignages, en les comparant avec la loi de Dieu et le témoignage de la Bible, et je trouve la plus parfaite harmonie entre les deux. Ces instructions n'apportent pas de nouvelles révélations qui prendraient la place des Écritures, mais plutôt pour nous montrer où et comment, en ces temps-ci, les gens sont susceptibles d'être égarés loin de la parole. La position occupée par les témoignages de Madame White peut être le mieux décrite dans ce qu'elle en a dit elle-même. La parole de Dieu est suffisante pour éclairer les esprits les plus enténébrés et elle peut être comprise par tous ceux qui en ont le désir. Malgré cela, certains qui déclarent faire de la parole de Dieu leur étude vivent en opposition directe avec ses enseignements les plus simples. Alors, afin qu'hommes et femmes n'aient aucune excuse, Dieu leur envoie des témoignages directs et précis, les ramenant à la parole qu'ils ont négligé de suivre. Celle-ci abonde en principes généraux destinés à former de bonnes habitudes, et les témoignages généraux et personnels ont pour but d'attirer l'attention spécialement sur ces principes. Les saintes Écritures ne vous sont pas familières. Si vous aviez fait de la parole de Dieu votre étude avec le désir d'atteindre l'idéal biblique et la perfection chrétienne, vous n'auriez pas eu besoin des témoignages. Le Seigneur désire vous avertir, vous reprendre et vous conseiller par le moyen des témoignages, et frapper vos esprits par l'importance de la vérité contenue dans sa parole. Les témoignages écrits ne sont pas destinés à apporter de nouvelles lumières, mais à graver d'une manière plus vivante dans les cœurs les vérités déjà révélées. Des vérités supplémentaires ne sont pas envoyées, mais à l'aide des témoignages, Dieu a simplifié les grandes vérités déjà données, et par le moyen qu'il a choisi, il les a présentées afin de réveiller et de toucher les esprits, de façon que personne ne cherche à donner une excuse de son ignorance. Les témoignages n'ont pas pour but d'amoindrir la parole de Dieu, mais de l'exalter, d'attirer sur elle l'attention, afin que la merveilleuse simplicité de la vérité touche tous les cœurs. Si le peuple qui de nos jours déclare être le trésor particulier de Dieu obéissait aux ordres divins tels qu'ils sont donnés dans la parole, des témoignages spéciaux ne seraient pas nécessaires pour le rendre attentif à ses devoirs et pour faire ressortir sa culpabilité et le danger auquel il s'expose. En négligeant d'obéir à la parole de Dieu, ces derniers mots manquent dans la traduction française de 2 TE 267. Règle numéro 2. Vrai prophète. Nous avons déjà appris que tous les vrais prophètes s'exprimeront en harmonie avec la loi de Dieu et le témoignage de sa parole. L'apôtre Jean donne une autre règle décrivant l'enseignement des vrais prophètes. Il dit « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceux-ci l'esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse que Jésus-Christ vient dans la chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue, et qui maintenant est déjà dans le monde. » 1 Jean 4, versets 1 à 3. Notez soigneusement l'écriture qui précède. Elle ne dit pas que quiconque confesse que Jésus-Christ est venu dans la chair, mais il vient dans la chair, c'est-à-dire qu'il vient, par son esprit, et demeure en nous, en réponse à notre foi. Ceci, en fait, est la vérité centrale de l'Évangile, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Éphésiens 3, verset 17, Colossiens 1, verset 27. Le thème pratique que l'on trouve dans tous les écrits de Madame White est la nécessité d'avoir Christ comme Sauveur habitant en nous si nous voulons faire des progrès sur le chemin menant au ciel. Ces écrits enseignent la nécessité du Christ en premier, en dernier et tout le temps. Pour illustrer ce fait, nous attirons l'attention sur son livre « Vers Jésus », dont plus de 100 000 exemplaires ont été vendus en langue anglaise, pour ne rien dire des milliers d'exemplaires dans les 18 langues étrangères dans lesquelles il est maintenant imprimé. Un ministre presbytérien, ayant lu le livre, en commanda plus de 300 exemplaires pour les membres de son église et ses amis, et dit « Ce livre a été écrit par quelqu'un qui connaît bien le Seigneur Jésus-Christ. » Règle numéro 3. Faux prophètes. Jean donne une règle pour détecter les faux prophètes. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. 1 Jean 4, verset 5. l'enseignement des faux prophètes flattera le cœur charnel, au lieu d'exalter le sacrifice de soi et le port quotidien de sa croix. Les faux prophètes enseigneront des choses flatteuses, au lieu d'exalter le Saint d'Israël. Ésaïe 30, versets 10 à 11. Si quelqu'un lit ne serait-ce que quelques pages des écrits de Madame White, il peut voir qu'ils sont dans la ligne du sacrifice de soi et du port de sa croix, et ne sont pas de nature à plaire à un cœur charnel de ce monde. Règle numéro 4. Souffrance et patience. En poussant ce sujet encore plus loin, nous allons prendre, comme quatrième règle, les mots de l'apôtre Jacques. « Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. » Jacques 5, verset 10. Lorsque nous lisons l'expérience de ces anciens prophètes, nous apprenons qu'une de leurs plus grandes épreuves était de voir Israël rejeté ou agir en s'opposant au témoignage qui leur était donné. Une courte étude de cette époque montrera aussitôt le caractère des vrais et des faux prophètes. Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur, et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Jérémie 23, verset 16. Il n'y a rien dans les écrits de Madame White qui rende le lecteur vain, mais, comme l'a dit une autre personne, « J'ai reçu un grand bénéfice spirituel des témoignages un grand nombre de fois. En effet, je ne les ai jamais lus sans me sentir condamné pour mon manque de foi en Dieu, mon manque de dévotion et mon manque de zèle pour le salut des âmes. » Sûrement, donc, l'effet des témoignages de Madame White est très différent de celui des enseignements des faux prophètes, tel qu'il est décrit par Jérémie. Le prophète nous raconte aussi comment les faux prophètes enseignent. Ils disent à ceux qui me méprisent, « L'Éternel a dit, vous aurez la paix. » Et ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, « Il ne vous arrivera aucun mal. » Jérémie 23, verset 17. Quant à la nature de l'enseignement de Madame White dans ses témoignages, je citerai les paroles suivantes venant d'un lecteur attentif. « J'ai lu tous ces témoignages d'un bout à l'autre, la plupart d'entre eux plusieurs fois. » Et je n'ai jamais pu trouver dans tout cela une seule phrase immorale, ni quelque chose qui ne soit pas strictement chrétien et pur. Rien qui éloigne quelqu'un de la Bible ou du Christ. Mais j'y ai trouvé les appels les plus sérieux à obéir à Dieu, à aimer Jésus, à croire dans les Écritures, et à les approfondir sans cesse. Une telle proximité de Dieu, une telle dévotion sincère, de tels appels solennels à vivre une vie sainte ne peuvent qu'être incités par l'Esprit de Dieu. Un observateur attentif de ces témoignages depuis le début écrit « Je désire témoigner que ces écrits ne manquent pas d'action claire et fidèle, sans crainte ni favoritisme. Si des motivations basses et méchantes contrôlaient ce travail, des mots flatteurs remplaceraient les témoignages pénétrants et les reproches fidèles. Simplicité des mots, reproches fidèles des mauvaises actions, paroles de compassion et d'encouragement pour les âmes tremblantes qui ressentent leur besoin du Sauveur, et pour les égarés qui cherchent en toute humilité à se débarrasser de leurs défauts, voilà les choses qui entraient en grande partie dans son travail. Le témoignage de Madame White, condamnant les torts de nombreuses personnes qu'elle avait vues en vision, a été donné avec une grande fidélité et avec les résultats les plus excellents. Règle numéro 5. Les vraies prophéties s'accomplissent. Moïse fit une déclaration concernant les vrais et les faux prophètes que l'on trouve dans le 18e chapitre du Deutéronome. Il dit « Comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. » Deutéronome 18, versets 21 à 22. On trouve également la même chose dans l'écriture suivante. « Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonnée ?» Lamentations 3, verset 37. Il est dit à propos du prophète Samuel, « Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. » 1 Samuel 9, verset 6. c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé par l'Éternel. Jérémie 28, verset 9. Cela fait maintenant plus de 53 ans que l'auteur vit pour la première fois Madame E.G. White en vision prophétique. Pendant ces années, elle fit de nombreuses déclarations prophétiques sur des choses qui auraient lieu. Certaines de ces prédictions concernent des événements déjà accomplis. Certaines sont en voie de réalisation, tandis que d'autres sont encore à venir. En ce qui concerne celles relatives aux événements passés ou présents, je ne connais pas un seul exemple d'échec. Certaines de ces prédictions ont déjà été mentionnées. D'autres apparaîtront dans les chapitres suivants de notre récit. Règle numéro 6. Les miracles ne sont pas un test d'un vrai prophète. De nombreux écrivains en théologie ont affirmé et déclaré dans des commentaires des Écritures que le signe d'un vrai prophète est la réalisation de miracles. Nous n'avons pas encore trouvé dans les Écritures une règle de ce genre. Si opérer des miracles est la preuve d'un vrai prophète, alors le faux prophète, mentionné dans Apocalypse 19, verset 20, serait déclaré être après tout un vrai prophète, car il est dit « Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête. » Il est à nouveau parlé de la même puissance dans Apocalypse 13, verset 14, séduisant les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête. Par la même application de cette règle, nous devrions arriver à la conclusion que même Satan est un vrai prophète. Certains esprits qui feront un travail spécial sous le sixième des sept derniers fléaux sont appelés des esprits de démons, qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Apocalypse 16, verset 14. Si la preuve d'un vrai prophète se trouve dans les miracles qu'il accomplit lorsqu'il n'est pas en vision, nous ne trouverions que peu de prophètes bibliques qui passeraient le test, surtout si la décision repose sur ce qui est écrit concernant leurs œuvres. Il est vrai qu'il est fait mention de miracles opérés par certains prophètes, tels qu'Élie, Élisée et Paul. Mais qui a trouvé dans la Bible un récit des miracles d'Ésaïe, de Jérémie, de Daniel, d'Osée, de Joël ou d'Amos, etc. Pourtant, ils étaient de vrais prophètes de Dieu, et ils sont prouvés être tels par les règles que le Seigneur a données comme test d'un vrai prophète. Qu'opérer des miracles ne soit pas un test d'un vrai prophète se voit clairement en lisant le récit de l'Écriture sur Jean-Baptiste. La prédiction de son père, Zacharie, concernant la vision que Dieu lui avait donnée sur le fils qui lui naîtrait, montre qu'il fut un prophète. « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. » Luc 1, verset 76. Notre Sauveur lui-même a reconnu que Jean était le prophète qui devait préparer le chemin devant lui, car il a dit de Jean « Qu'êtes-vous donc allé voir ? Un prophète ? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. C'est celui dont il est écrit « Voici, j'envoie mon messager devant ta face, pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. » Luc 7, versets 26 à 28. On a là, donc, une déclaration claire du Sauveur montrant que Jean était un prophète. Appliquons le test de faire des miracles et voyons le résultat. Dans l'évangile de Jean, nous lisons ces mots. « Beaucoup de gens vinrent à lui, et il disait « Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. » Jean 10, verset 41. Cette déclaration seule est une réfutation totale de la prétention qu'un signe d'un vrai prophète est l'opération de miracles. Cette règle donnée dans Deutéronome 13, versets 1 à 3, que nous désignons comme la règle numéro 6 de notre présente énumération, nous met en garde contre tout phénomène merveilleux ou miraculeux jusqu'à ce que nous ayons d'abord considéré soigneusement s'il a tendance à nous rapprocher du Seigneur ou à nous en éloigner. Ce texte nous dit pratiquement d'appliquer toutes les règles, surtout pour voir si ce phénomène est en harmonie avec Dieu et sa loi. Cette sixième règle enseigne que si un miracle est opéré par un faux prophète, on verra chez lui, lorsqu'il est soigneusement testé, un éloignement des vérités de la parole de Dieu et un abaissement des valeurs morales pour satisfaire ceux qui sont enclins à se détourner de la voie de l'abnégation. Le Seigneur permet à un tel prétendant de se révéler, et sa prétention est un test pour le véritable enfant de Dieu, lui donnant l'occasion d'évaluer soigneusement la tendance ou la motivation du soi-disant faiseur de miracles. Ceux qui s'accrochent à la parole de Dieu, au lieu d'être captivés par le faux faiseur de miracles, sortent fortifiés dans leur foi en Dieu de ce genre d'expérience. Dans ces jours mauvais, quand beaucoup d'individus prétendent être des guérisseurs par la foi, des guérisseurs divins, des guérisseurs de la science chrétienne, etc., il serait bon d'appliquer minutieusement les règles scripturaires, car les règles divines sont nécessaires, ainsi que l'illumination du Saint-Esprit, pour nous permettre de discerner clairement l'intention et le but de certains de ces guérisseurs, si subtil est leur travail. Alors que d'autre part, on trouve ceux qui méprisent ouvertement la loi de Dieu et sa vérité pour notre temps. Dans certains cas, ces prétendus guérisseurs se sont enragés comme des hommes remplis de fureur à une simple mention de la loi de Dieu. Aussi sûrement que le Seigneur est un message proclamant sa sainte loi, aussi sûrement les hommes qui se répandent en injures contre sa loi sont privés de l'Esprit Saint et rejettent loin d'eux ceux qui la mentionnent. Règle numéro 7. Leurs fruits. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Matthieu 7, versets 15 à 20. Ces paroles de notre Sauveur reconnaissent le fait que le don de prophétie existerait dans la dispensation évangélique. Si aucun vrai prophète ne devait être lié à l'œuvre, et si chaque manifestation prophétique devait venir d'une mauvaise source, n'aurait-il pas dit « Gardez-vous des prophètes » Le fait qu'il nous dise aussi certainement comment chaque type peut être reconnu est la meilleure preuve que le véritable don de prophétie ferait partie des œuvres du Consolateur, l'Esprit Saint, en montrant les choses à venir. Jean 16, verset 13. Cette règle, qui est la septième de notre liste, est infaillible. Le Christ n'a pas dit que vous pouvez peut-être les reconnaître à leurs fruits, mais, de façon positive, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Nous demandons, quels fruits doit-on voir dans le travail des véritables dons de l'Esprit de Dieu ? La réponse se trouve dans la déclaration de Paul expliquant le but du Seigneur en plaçant les dons dans l'Église. C'est pourquoi il est dit, « Étant monté en haut, il a emmené des captifs, et il a fait des dons aux hommes. » Or, que signifie « il est monté » sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre ? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Éphésiens 4, versets 8 à 13. Appliquons cette règle au don prophétique qui a été associé au message du troisième ange dès son début, et quel est le résultat? Nous constatons que l'enseignement donné par Madame White a été dans la ligne de l'unité et de l'harmonie, exhortant à se consulter les uns les autres et à serrer les rangs pour être à l'unisson avec le Christ, assurant ainsi une véritable communion et union les uns avec les autres. Certains adversaires de cette œuvre ont malicieusement dit « Si ce n'était pour les visions de Madame White, que vous avez parmi vous, il y a longtemps que votre cause serait tombée en lambeaux. » On répond, c'est vrai, parce que de cette source, le Seigneur a donné des conseils, des avertissements et la lumière, et ainsi, les dissensions ont été supprimées, et l'œuvre a prospéré. Ainsi, ce qu'il pensait être un argument contre le don est en réalité un témoignage que son fruit est celui du véritable don de prophétie. Pendant plus de 60 ans, les manifestations du don de prophétie de Madame White ont été testées par ces 7 règles, et dans chaque cas particulier, elles ont rempli les conditions requises d'une véritable prophétie.